Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et l'essentiel de ce journal sera bien entendu consacré à l'incendie qui a ravagé hier soir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après une nuit entière à lutter contre les flammes, les pompiers sont enfin parvenus à maîtriser l'incendie. L'ensemble du feu est désormais éteint. En revanche, des experts doivent à présent déterminer si la structure est encore stable. Au chapitre des questions qui restent là aussi à élucider, selon les premières hypothèses, le feu pourrait être lié aux travaux de rénovation qui étaient en cours sur une partie de l'édifice. Enfin, depuis ce matin, une réunion de ministres dirigée par Édouard Philippe est en cours à Matignon afin de préparer un plan de reconstruction conformément à la promesse dès hier soir d'Emmanuel Macron de rebâtir la cathédrale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de parler de beauté. L'époque est plutôt aux ordres de la terreur et de ses promesses. L'exil de la beauté, c'est le titre de l'essai qu'il signe chez Textuel. L'architecte Rudy Ricciotti sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Et ensemble, bien sûr, on reviendra également sur les flammes qui ont dévasté hier Notre-Dame de Paris. Le point de vue de l'architecte dans la deuxième partie de la grande table.
Merci. Merci et à tout à l'heure. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Les innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. Il y avait des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait, qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. Qui mieux que Victor Hugo aurait pu décrire, même avec deux siècles presque d'avance, l'incendie qui a donc en partie dévasté hier la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un incendie désormais totalement éteint, en revanche, et dès les premières lueurs du jour, tandis que les rougeoiements de l'aube rappelaient encore les lueurs des flammes, les portes entrouvertes de cette icône de l'architecture gothique dévoilaient une scène de désolation, en particulier avec des monceaux de débris calcinés issus du toit et de la charpente qui se sont effondrés à l'intérieur de l'édifice. Luca Scaltriti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Que voyez-vous? Qu'y a-t-il en face de vous, Lucas? Que reste-t-il au fond de la noble bâtisse?
Eh bien, si l'on se place face à la cathédrale, les deux beffrois sont debout presque, comme si de rien n'était. Mais si l'on se déplace sur un des côtés, derrière eux, il n'y a plus rien. La toiture a été ravagé, il ne reste plus qu'un échafaudage qui tient encore quelque peu affaissé en son centre. Il entourait la flèche qui s'est effondrée hier soir, tout comme l'ensemble de la charpente de la cathédrale. Le porte-parole des pompiers a précisé ce matin qu'à cause de cela, une partie de la voûte s'est effondrée dans la nef centrale. Les vitraux du 12 et 13e siècle sont intacts, certains ont été endommagés, mais ils étaient plus récents. Place maintenant, vous l'avez dit, à l'expertise de la cathédrale, mesurer l'ensemble des dégâts et préparer la consolidation. On peut apercevoir des personnes sur des coursives qui examinent la façade. 100 pompiers sont mobilisés aujourd'hui et le resteront toute la journée.
Et puis la photo, Lucas, vous l'évoquiez presque à l'instant, ne serait pas complète si l'on ne parlait pas effectivement de cette foule encore extrêmement nombreuse autour de l'édifice, défigurée malgré le périmètre donc de sécurité.
Oui, effectivement, un important périmètre de sécurité installé tout autour de la cathédrale, impossible de l'approcher. Mais derrière les rubans rouges et blancs, des centaines, voire des milliers de badauds venus voir pour de vrai, beaucoup de touristes évidemment, mais également beaucoup de Parisiens qui ont fait un détour avant d'aller travailler ou prenant un peu de temps sur leur pause déjeuner. Certains se recueillent, d'autres prennent furtivement une photo. Dire que le monde a les yeux rivés sur la cathédrale Notre-Dame de Paris aujourd'hui est une formule galvaudée peut-être, mais pour autant il y a des dizaines et des dizaines de caméras de médias étrangers tournées vers l'édifice, des chaînes espagnoles, anglaises, allemandes, arabes, et toutes évoquent le même sentiment, le choc.
Merci Luca Scaltriti en direct depuis le parvis de la cathédrale. Alors en dépit de l'ampleur inédite du sinistre, on l'a compris, la structure a été préservée dans sa globalité. En revanche, si les deux tours massives de la façade principale ont fait socle, le feu a lui englouti la quasi-totalité de l'immense charpente surnommée la forêt, de même que la toiture en plomb ainsi que la flèche centrale. Des vitraux centenaires auraient également été détruits. Les objets sacrés dans la sacristie seraient eux a priori préservée. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
A-t-on ce matin une idée plus précise de l'étendue des dégâts ?
Alors déjà, vous l'avez dit, la structure du bâtiment a tenu. C'était une inquiétude majeure hier soir. Avant que l'incendie ne soit maîtrisé, on craignait que l'une des tours ne s'écroule. En revanche, le toit a disparu ainsi que la charpente. Une partie de la voûte s'est effondrée. Et quand on survole la cathédrale, on le voit, il semble n'y avoir plus qu'un trou béant entouré de murs. La structure va-t-elle résister ? C'est encore une question. À l'heure où nous parlons, est-elle stable ? Peut-elle être mise en danger par la chaleur qui continue à affaiblir ce qu'il reste du bâtiment ? Ces inquiétudes sont toujours d'actualité. Il n'y a plus rien de la flèche qui n'a pas résisté aux flammes, tout comme le coq reliquaire en son sommet. Malgré tout, la grande rosace en vitraux de la façade sud, côté Seine, est intacte, tout comme les 12 statues monumentales qui ornaient le toit de Notre-Dame. Elles ont échappé au sinistre de justesse, arrivées la semaine dernière à Périgueux pour y être restaurées. Inquiétude au sujet du grand orgue. Son buffet n'a pas brûlé, mais les tuyaux ont très probablement souffert de la chaleur, de l'eau et des cendres. L'autel, lui, semble miraculeusement intact.
Et puis, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour dire ce qui a pu causer le drame sur l'île de la Cité, il semble tout de même, Antoine, que l'hypothèse d'un départ de feu accidentel au niveau des échafaudages installés sur le toit de l'édifice soit aujourd'hui la piste privilégiée.
Effectivement, une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie. La piste accidentelle est privilégiée, comme vient de le confirmer le procureur de la République de Paris. Les auditions des témoins sont toujours en cours. Une première alerte incendie a été donnée à 18h20 hier soir, suivie d'une procédure de levée de doute qui n'a permis de détecter aucun départ de feu. Puis une seconde alerte a été déclenchée une vingtaine de minutes plus tard, lors de laquelle un feu a été constaté au niveau de la charpente.
Merci Antoine Marette. Les investigations risquent donc effectivement de se révéler extrêmement longues et délicates avant que ne soient éclaircies avec précision les circonstances du départ du feu, et notamment parce que l'incendie ayant largement détruit la toiture de l'édifice, eh bien il ne sera pas simple d'y retrouver des preuves matérielles pour tenter d'expliquer l'origine du drame. S'agissant à présent de cet incendie, justement, le feu s'est en réalité propagé extrêmement rapidement. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Même si dès le départ, un important dispositif de secours a été mis en place avec 400 pompiers, dont certains juchés sur des bras mécaniques à des dizaines de mètres de hauteur, on a quand même, face à ces images irréelles, et notamment cette flèche donc de 93 mètres de haut, dévorée par les flammes, un sentiment de très grande impuissance. Comment se sont déroulées ces opérations? Avec quels moyens et surtout, quelles priorités?
Vous avez raison, ce sentiment en tout cas que les moyens mis en place sont insuffisants, que les pompiers sont impuissants face à ce sinistre, au drame qui se déroule en direct sous nos yeux hier soir. Ce sentiment, les Français sont nombreux à l'avoir partagé. Pourtant, très vite, vous l'avez dit, 400 pompiers sont sur place. Les lances sont progressivement déployées, 18 en tout. Elles sont manipulées depuis donc des bras en hauteur, mais en deçà des flammes, un peu loin du feu qui dévore Notre-Dame, se dit-on. Comment reprendre le dessus face à un tel brasier? La question, les pompiers se la posent dès le début de leur intervention. Ils font en fait vite le constat que la partie toiture n'est pas sauvable. La charpente, la forêt de Notre-Dame n'est donc pas leur priorité. Dès le début, ils prennent le parti de mettre tous les moyens en œuvre pour protéger, sauver d'abord bien les deux beffrois qui abritent les cloches à l'avant donc de Notre-Dame. Les deux beffrois sont arrosés, on le voit en permanence. Un début d'incendie dans le beffroi nord est stoppé. Deuxième obsession, sauver un maximum d'œuvres d'art. Celles qui étaient dans la partie trésor l'ont été au tout début de l'incendie, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis notamment.
Et puis hier, Véronique, le temps d'un tweet signé Donald Trump suggérant d'utiliser des bombardiers d'eau pour éteindre cet incendie, eh bien la question s'est posée de savoir pourquoi on ne larguait pas de l'eau par avion sur l'édifice.
Là aussi, cette option Canadair est balayée dès le début par les pompiers, inenvisageable. Tout simplement, sur ce type d'édifice, explique le colonel Jérôme Vincent des sapeurs-pompiers de la Marne.
Quand on fait un largage aérien, il n'y a personne autour. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève tous les piétons, on enlève en général la majeure partie des véhicules. Mais par ailleurs aussi, ça a pu être noté par les spécialistes des avions, la difficulté, c'est d'abord de viser correctement. On est quand même en ville. Un bombardier d'eau, c'est surtout fait pour aller sur la forêt. Et qui plus est, une masse d'eau comme ça, ça va de 4000 à 6000 litres, voire un petit peu plus d'un seul coup qui tomberait du ciel, risque d'endommager notamment la voûte. Parce qu'en fait, il faut se rappeler quand même en dessous de la charpente, il y a une voûte en pierre bien fragilisée. et de bloquer comme ça en bombardement risquerait de faire du dégât conséquent à l'édifice et notamment à la stabilité de l'édifice lui-même. Au-delà du risque pour les personnels, badauds, intervenants, policiers, voilà.
Les canadaires, c'est pour la forêt, mais pas celle de Notre-Dame et sa charpente en bois de chêne qui ne pourra pas être reconstruite à l'identique.
Merci Véronique Robérotte. Alors quelques heures à peine donc après la catastrophe se pose déjà la question du coût de la reconstruction de la cathédrale. Dès hier soir, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une souscription nationale. De nombreuses cagnottes en ligne ont également été lancées. Des acteurs institutionnels ont également fait part de leur intention de mettre la main à la poche. Et puis les familles Arnaud et Pinault, parmi les plus riches de France, ont aussi promis à L2 de verser 300 millions d'euros. Et toute cette mobilisation dépasse même aujourd'hui les frontières françaises. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, et déjà avant l'incendie, eh bien on s'était tourné notamment vers les États-Unis pour financer les travaux de rénovation de la cathédrale.
Oui, en 2017, une fondation ayant l'agrément du fisc américain avait été fondée, la branche américaine de la Société des Amis de Notre-Dame de Paris. C'est cette société qui finançait déjà la rénovation des statues ornant la flèche tombée hier dans les flammes. Des Américains appelés à la rescousse pour aider à la rénovation de la cathédrale, faute d'argent frais français et malgré 2 millions d'euros par an alloués par l'État. La philanthropie américaine concernant l'héritage français est légendaire. C'est par exemple la fondation Rockefeller qui, à l'époque, avait grandement participé à la reconstruction de la cathédrale de Reims bombardée. Autre société de mécènes américains, la French Heritage Society, basée à New York et qui collecte des fonds pour préserver le patrimoine français. Elle a lancé, cette société, une collecte en ligne pour reconstruire la cathédrale. Pour la France, il y a, vous l'avez dit, deux des plus riches français dans le monde, Bernard Arnault et François-Henri Pinault, qui, via leur fondation, ont débloqué 300 millions d'euros. Plusieurs cagnottes se sont ouvertes dès hier soir sur des plateformes spécialisées dont il est conseillé de se méfier lorsqu'elles sont gérées par des particuliers. Hier, le président de la République annonçait, vous l'avez dit également, le lancement d'une souscription nationale dont les dons demandent déjà certains, comme l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, pourraient être défiscalisés à hauteur de 90%. Cela entrerait dans le cadre de la loi de 2003 sur le mécénat et impliquerait que Notre-Dame entre dans la catégorie de trésor national. La Fondation du patrimoine, organisme privé, a lancé également une collecte nationale accessible depuis quelques minutes sur le site don.fondation-patrimoine.org sans prélèvement de frais. 600 000 euros ont déjà été recueillis. La région Île-de-France débloquera, elle, 10 millions d'euros. La mairie de Paris, 50 millions d'euros. La Commission européenne également annonce qu'elle soutiendra les efforts de reconstruction. Enfin, il y a les dons en nature. La Caisse des dépôts, l'un des plus gros propriétaires forestiers de France, annonce qu'elle offrira des chênes pour la reconstruction de la charpente. Les propriétaires forestiers sont invités à donner un arbre chacun. On parle aussi de mécénat de compétences.
Merci Anne-Laure Chouin. Alors hier, tandis que la cathédrale était encore en proie aux flammes, la République s'est figée tout entière. Les politiques de tous bords ont aussitôt fait part de leur émotion dans un esprit de communion. Ce matin encore, la tête de liste de La République En Marche aux élections européennes, Nathalie Loiseau, a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la campagne électorale du parti présidentiel. Idem pour le Rassemblement National. Quant à Emmanuel Macron, il avait lui annulé dès hier soir son allocution post-grand débat pour se rendre au chevet de la cathédrale. Il faut dire que si Notre-Dame de Paris est d'abord un lieu symbolique pour les catholiques, en l'occurrence le symbole des racines chrétiennes de la France, une véritable communion dans le deuil semble s'être installée en France, bien au-delà donc des seuls croyants. Je vous propose d'écouter à ce propos Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
C'est bien entendu un moment douloureux pour les catholiques qui se réveillent un peu sonnés, mais c'est aussi pour l'ensemble des Français et beaucoup plus largement pour beaucoup de gens à travers le monde. Un symbole très fort qui a été touché cette nuit. Vous savez, je pensais souvent que l'âme de beaucoup de nos villages tient à l'église. J'ai eu l'impression cette nuit que la cathédrale Notre-Dame de Paris était un petit peu le clocher du monde.
On a assisté depuis hier à une communion qui va bien au-delà des catholiques français. Qu'est-ce que vous en déduisez ?
Vous savez, pour le prêtre de Paris que je suis, la cathédrale Notre-Dame de Paris a une signification toute particulière. Mais pour le porte-parole de la Conférence des évêques que je suis également, je vois bien que le rayonnement de cette cathédrale n'est pas lié uniquement au catholicisme, mais en dehors même de ce joyau architectural, c'est un élément maître de notre histoire. C'est là qu'ont eu lieu tant d'événements récents des décennies passées. On pense au Magnificat de 44, mais on pense aussi aux obsèques du général de Gaulle ou à ceux de Georges Pompidou. Et j'entends encore résonner le bourdon de Notre-Dame pour les grands événements et même les catastrophes de notre pays. Après les attentats de novembre 2015, le bourdon de la cathédrale a retenti. Et donc c'est tout cela qui forge notre histoire commune et qui permet à tous les Français aujourd'hui de se dire qu'ils ont un lien particulier avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, sans oublier que venant du monde entier, 13 millions de pèlerins et de visiteurs la visitent chaque année. Et donc c'est le cœur vibrant de la capitale et c'est en même temps un symbole très fort de l'histoire de notre pays depuis plus de 850 ans. La cathédrale Notre-Dame de Paris ne sera jamais plus comme elle a été avant. On ne pourra pas imaginer qu'il y ait les mêmes vitraux exactement, tout ce qui a fait Notre-Dame. Donc il faut que nous passions par une période de deuil. Après, on voit bien comment au cours des siècles, Notre-Dame a évolué et que Viollet-le-Duc a modifié des choses, que dernièrement, dans les dernières décennies également, sous l'impulsion du cardinal Lustiger, le cœur de la cathédrale avait été modifié et que donc c'est une tradition vivante aussi. Hein. L'architecture évolue, donc ce sera à ceux qui sont le plus qualifiés, aux grands architectes de dire, en lien avec les autorités de tutelle et les autorités religieuses, ce qu'il convient de faire pour la reconstruction de la cathédrale.
Voilà, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Il répondait à Antoine Marette. De son côté, le Vatican a lui, dès hier soir, exprimé son incrédulité, sa tristesse, se désolant pour ce symbole de la chrétienté en France et dans le monde. En revanche, le pape François ne s'est lui pas encore exprimé en public, quoi qu'il en soit. Et comme dans tant d'autres capitales d'ailleurs à travers le monde, à Rome, centre du catholicisme, eh bien les réactions d'effroi et surtout de solidarité affluent avec peut-être davantage encore de ferveur, comme en témoigne le reportage de notre correspondante Mathilde Imberti.
Le choc nous terrasse tous, commente au Vatican le porte-parole Alessandro Gisotti. C'est l'unique sujet de discussion ce matin aux alentours de la place Saint-Pierre. Le pape François, lui, prie pour le peuple de Paris, assure son porte-parole.
Le pape François est proche de la France. Il prie pour les catholiques français, et pour la population parisienne, pour toute la France. Nous sommes conscients que Notre-Dame de Paris restera un symbole majeur pour la foi catholique, et pas seulement en France. Notre-Dame, c'est incroyable. Je pense qu'après la basilique de Saint-Pierre à Rome, probablement c'est l'église la plus connue dans le monde, Notre-Dame de Paris. Et donc, je vais souligner notre proximité au peuple de Paris, de la France et aux catholiques de Paris.
Dans les églises de Rome, on croise des fidèles qui se disent bouleversés, des prêtres qui prient pour que Notre-Dame se relève. L'émotion est particulièrement forte à Saint-Louis des Français et pour son recteur, Monseigneur François Bousquet. Il s'attend place Saint-Pierre à quelques mots du pape François.
Ça m'étonnerait que le pape n'en parle pas dimanche, là. Mais c'est certain qu'il n'est pas du tout indifférent. Dès qu'il arrive quelque chose d'important, il manifeste son attention et sa présence. On va voir. Pour le moment, on est quand même encore un peu sous le choc. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Je reçois des mails de partout, jusqu'au Canada, là-bas, où les amis m'écrivent. Voilà.
Saint-Louis, qui, comme les centaines d'églises de Rome, se prépare à célébrer Pâques. Des milliers de pèlerins ont déjà envahi les rues de la ville pour l'occasion.
Voilà, un reportage signé dans les rues de Rome par notre correspondante Mathilde Imberti. Pour continuer d'évoquer toujours et encore cet incendie, invité de la rédaction, aujourd'hui Jean de Lamberti, président de l'Association pour la demeure historique et vice-président de la Fondation pour les monuments historiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Cécile de Kervas-Douai. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Une première question, monsieur de Lamberti. Avant Notre-Dame de Paris, plusieurs bâtiments historiques ont déjà été dévastés par des incendies en France ces dernières années. On citera la cathédrale de Reims, l'hôtel Lambert, l'un des joyaux architecturaux, la capitale, mais aussi le château des Ducs de Savoie, une partie de la toiture du palais de Chaillot, le parlement de Bretagne à Rennes, sans oublier le château de Lunéville, parfois baptisé Petit Versailles Lorrain, et que vous connaissiez bien, je crois. A-t-on un problème aujourd'hui avec les risques d'incendie s'agissant du patrimoine historique en France ?
Alors, je ne crois pas qu'on ait un problème conjoncturel particulier. Je peux vous assurer que lorsqu'on est responsable de monuments publics ou privés de monuments historiques, la question de la sécurité, de la lutte contre l'incendie est au cœur de ces préoccupations. Mais effectivement, ce qui s'est passé à Notre-Dame hier et qui se passe parfois, et on en parle moins, dans des monuments moins emblématiques mais quand même importants, rappelle qu'un monument historique est une force de rappel à l'humilité, voilà, et que nous n'avons pas, devons être vigilants en permanence et que nous ne pensons pas à tout moment.
Mais la récurrence donc des incendies ne serait au fond le fait que d'un malheureux hasard.
Alors je dis pas malheureux hasard, parce qu'il faut évidemment prendre toutes les précautions, et j'imagine que dans le cas particulier de Notre-Dame, cela a été fait, mais il peut y avoir, l'erreur est humaine, une inattention humaine, quelque chose que l'on n'a pas prévu, des systèmes de détection insuffisants. Mais voilà, ce qui est intéressant, je crois, dans le cas de Notre-Dame, c'est qu'elle avait échappé à de très nombreux sinistres et avatars, et que c'est dans une période un peu de paix que ce sinistre planétaire est apparu.
Une question de Cécile de Carasdouet.
Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement derrière ce drame une vraie question de financement du patrimoine ? On sait par exemple qu'il avait été extrêmement difficile d'arriver à l'accord cadre de mai 2017 qui débloquait enfin 60 millions d'euros de fonds publics et privés pour pouvoir rénover certaines parties de Notre-Dame qui menaçaient donc d'un délabrement avancé. Est-ce que finalement tout ça, alors qu'on voit, on a entendu tout à l'heure qu'il y a des cagnottes qui sont lancées, qu'on débloque d'un coup la 360 millions d'euros. Est-ce que ça pose pas quand même la question d'un financement pérenne du patrimoine ?
Alors si vous avez raison, vous citiez tout à l'heure le château de Lunéville et l'incendie du château de Lunéville. Je suis lorrain et je me souviens que ce château était finalement un peu abandonné jusqu'à son incendie. Je dis un peu abandonné parce qu'on s'en occupait quand même. Et il a fallu qu'il y ait cet incendie pour qu'on s'en préoccupe. Et peut-être que ce que vous évoquez à propos de cet élan planétaire de générosité est aussi un révélateur de cette situation un peu paradoxale. Le patrimoine, que ce soit la cathédrale Notre-Dame au cœur de Paris et du monde, on devrait dire, ou le petit prieuré ou la petite église au cœur d'un village, lorsqu'il s'effondre, ou le petit château lorsqu'il brûle, déclenche un élan d'émotion qui est assez paradoxal. C'est-à-dire pendant des années, ce monument a peut-être souffert d'un déficit de financement, et tout d'un coup, on prend la mesure de l'attachement viscéral et collectif auquel il a droit. Donc il y a une sorte de paradoxe, j'en conviens, dans cette situation, et c'est probablement pour cela qu'il faut encourager tous les financements pérennes, qu'ils soient liés au jeu ou à la démarche philanthropique plus discrète. Je crois que tous les éléments doivent converger. L'autre élément, c'est qu'il ne faudrait pas que l'engouement international bien légitime pour reconstruire, je ne vais pas dire restaurer, mais reconstruire Notre-Dame, ne conduise à abandonner tout le reste du patrimoine de nos territoires. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel les pouvoirs publics doivent être extrêmement vigilants, en particulier lorsqu'ils ont la responsabilité ultime des monuments qu'on dit classés ou inscrits sur l'ensemble de notre territoire national.
Oui, parce qu'effectivement, les promesses de financement et de restauration n'arrivent pas toujours.
Il y a un premier élément, mais c'est pas le jour pour en parler, c'est très technique, mais chaque année, le Parlement français vote environ 320 millions de crédits pour les monuments historiques, et depuis plus d'une dizaine d'années, tout gouvernement confondu, un certain nombre de crédits importants, entre 40 et 80 millions selon les années, ne sont pas utilisés. C'est assez paradoxal, mais c'est factuel. Voilà. Et donc, si déjà on pouvait utiliser ces quelques dizaines de millions complémentaires pour mieux restaurer, mieux sécuriser le patrimoine, c'est effectivement plus discret que des collectes de générosité comme celles que l'on voit aujourd'hui, et tant mieux, et on peut s'en réjouir. Mais c'est vrai que ce travail de plus discret, de longue haleine, est tout à fait essentiel, et ce qui s'est passé hier nous le rappelle.
Une dernière question, monsieur de Lamberti. Vous le disiez vous-même, il n'est pas question aujourd'hui de restaurer, mais bien de reconstruire Notre-Dame. Comment, d'après vous, allons-nous reconstruire Notre-Dame, selon quelle version, j'allais dire, celle issue de la restauration du monument par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle ou bien l'original ?
Alors, je vais exprimer, je ne suis pas un expert du sujet, j'ai pas la prétention, mais je connais un peu le sujet pour le vivre en tant que responsable de plusieurs monuments dans mon village, monuments civils, religieux et même industriels. Je crois que tous les monuments de France ont vécu à un moment donné des traumatismes et des résurrections. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui à Notre-Dame, et pour les chrétiens, et je ne mélange pas les genres, c'est pas innocent que ce soit passé probablement le lundi saint, il y a une notion en permanence de renaissance du patrimoine, de réinvention, de résurrection. Et ça, c'est aussi le mystère du patrimoine, c'est-à-dire que chaque siècle, en fonction des traumatismes qu'apporte chaque siècle, va apporter sa contribution à la rénovation, à l'entretien, on espère, et aussi parfois à la reconstruction, à la réinvention d'un monument. Et donc ça aussi, c'est peut-être un élément intéressant dans ce drame, c'est qu'est-ce qu'on va en faire tous ensemble de cette reconstruction. Puisque c'est manifestement, ce sera une œuvre extrêmement collective. Je crois que le message du président de la République hier nous l'a rappelé.
Merci Jean de Lamberti, président, je le rappelle, de l'Association pour la demeure historique et vice-président également de la Fondation pour les monuments historiques, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à Cécile Le Carvaz-Douai. Dans le reste de l'actualité en Égypte, c'est aujourd'hui que le Parlement, largement acquis au président Al-Sisi, doit se prononcer sur le projet de révision constitutionnelle, projet prévoyant une extension de l'actuel mandat du chef de l'État en clair. Et si elle était approuvée, la réforme pourrait ainsi permettre à l'ancien maréchal accusé de graves violations des droits humains de rester au pouvoir jusqu'en 2030. C'est aujourd'hui que s'ouvrent en Algérie les inscriptions sur les listes électorales dans la perspective de la prochaine présidentielle prévue le 4 juillet et qui devra désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Si l'armée, à travers la figure du général Salah, demeure le marionnettiste de la transition en Algérie, la question se pose également s'agissant du Soudan où un autre militaire, Abdelrahman, a pris la tête du conseil militaire de transition. Hier, les manifestants ont à nouveau durci leur position en réclamant la dissolution de ce conseil et son remplacement immédiat par un pouvoir civil. Voilà près d'un mois maintenant que l'Iran se noie. Les dernières estimations des inondations parlent de 76 morts, 500 000 déplacés et 10 millions de personnes affectées par ces pluies torrentielles. Dans le même temps, l'aide humanitaire peine à arriver sur place. Téhéran pointe les sanctions américaines qui complique les opérations de secours. On termine avec un mot rapide de météo. Une France partagée en deux, de l'ouest du Cotentin au Roussillon. Là, les éclaircies gagneront progressivement du terrain dans l'après-midi. En revanche, à l'est, un voile dense se maintiendra toute la journée avec un risque de pluie. Les températures, elles seront comprises entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.